BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, dans l'actualité ce soir. Ça n'arrive quasiment jamais, ça n'était jamais arrivé à Kering quasiment. Le titre a dégringolé de 12% ce soir à la Bourse de Paris quand on vous dit que les arbres ne montent pas en ciel. En tout cas, en ligne droite, on va voir ça du côté de Euronext dans un instant. Sinon, il y a cette série de réunions ce soir à l'Elysée sur le thème... des déficits publics. Emmanuel Macron reçoit en ce moment plusieurs ministres de son gouvernement. Il va dîner avec les chefs de parti et les chefs d'opposition. C'était pas à l'agenda. Ça veut dire clairement que la situation commence vraiment à être tendue. On verra ça avec Thomas Asportas dans un instant. On vous parlera aussi ce soir de l'audition de Jordan Bardella devant la CPME aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions apparemment, des questions pas toujours très précises. Et puis... cette grande question, est-ce qu'il faut ramener les délais de paiement de 60 à 30 jours ? C'est ce que veut Bruxelles, ça part d'un bon sentiment, sauf qu'en France, beaucoup d'experts vous disent non, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément une très très bonne idée, on vous racontera ça. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h en direct. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, comme quoi, voyez, tout arrive, même à ceux qu'on croit insubmersibles. Action Kering a passé une journée absolument épouvantable. Moins 12% ce soir à la Bourse de Paris. Bonsoir Étienne Braque, vous êtes à Euronext pour BFM Business. C'est bonsoir. Parti d'un profit warning annoncé hier soir, tout ça, Étienne, finalement. Hein.
Ouais, pire séance depuis mars 2020 et la pandémie. Moins 12% ce soir à la clôture pour Kering, qui paye une nouvelle fois sa dépendance à Gucci, qui est en panne de croissance, hein, puisque hier soir, le groupe a annoncé que Gucci afficherait une vente en baisse d'environ 20% au premier trimestre, qui aura un impact de 10% sur l'ensemble du groupe Kering. En cause, la nouvelle collection de Sabato De Sarno, qui est arrivée tardivement en boutique mi-février. Donc, vous avez une transition avec la précédente collection d'Alessandro Michele, et puis surtout, une croissance mollassante en Chine. Et ça, malheureusement, c'est une nouvelle... mauvaise nouvelle, ça rejoint un petit peu le discours de Tod's la semaine dernière qui parlait d'une très bonne croissance partout au mois de février, sauf en Chine. Et ça, eh bien, ça confirme que le consommateur chinois est toujours très prudent, qu'il enchaîne les crises financières, économiques et puis surtout immobilières. Même Pernod Ricard, il y a trois semaines, était très prudent par rapport au nouvel an chinois. En tout cas, comme on a pu le voir avec Téléperformance ou encore Atos ces derniers jours, les marchés sont très nerveux en ce moment et ne font pas de cadeaux. Rendez-vous compte, en l'espace d'une séance, c'est 7 milliards de capitalisation boursière qui se sont envolés pour Kering.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Étienne. On vous retrouve dans quelques instants pour faire le point sur les autres actualités, sur les valeurs parisiennes aujourd'hui à la Bourse de Paris. 18h01, je vous disais, dans l'actualité ce soir, c'est le branle-bas combat à l'Elysée sur la question des déficits. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Donc si on se résume, Emmanuel Macron reçoit en ce moment plusieurs ministres. Il dîne tout à l'heure avec les chefs de parti et les chefs de groupe parlementaire. Et ce que vous nous dites, c'est que l'idée pour lui, c'est de reprendre la main avant une séquence qui va durer quelques semaines, qui va être un petit peu délicate à négocier quand même.
Oui, séquence qui commence mardi prochain, le 26 mars, avec la publication par l'INSEE des comptes publics 2023. Ça va être l'heure de vérité parce que ça va être à ce moment-là qu'on va connaître l'ampleur du déficit de l'année écoulée. L'objectif du gouvernement, c'était 4,9%, mais on s'en souvient, c'était il y a 15 jours, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave nous ont dit que ce serait significativement, c'est leur mot, davantage. On sera d'après les économistes entre 5 et 5,5% de déficit pour 2023. Donc ça va être une très mauvaise nouvelle qui va être annoncée mardi prochain. On va être concrètement le seul grand pays de la zone euro avec l'Italie à avoir un déficit supérieur à 5%. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'en partant d'aussi haut en 2023, ça rend très improbable l'objectif de déficit pour cette année, qui est de 4,4%. Ça voudrait dire qu'il faudrait réduire le déficit de quasiment un point en un an, ce que la majorité n'a jamais fait depuis 2017.
Bon, et ça arrive cette séquence au moment où la France va être scrutée vraiment de tous les côtés pour le
emprunteur. Oui, puisque les agences de notation vont toutes rendre leur verdict dans les semaines qui viennent. Fitch et Moody's, c'est le 26 avril, un mois pile après la publication des comptes de l'INSEE. Standard & Poor's, c'est le 31 mai, une grosse semaine avant les élections européennes du 9 juin. Et vous voyez bien ce que craint le gouvernement. C'est un... eh bien, que la note de la France soit dégradée par les agences de notation. Elle a échappé belle l'année dernière à deux reprises, oui. Mais le risque est encore plus fort cette année avec des comptes qui se sont encore aggravés. Et deux, eh bien, que la majorité soit sanctionnée aux européennes à cause notamment de la mauvaise gestion des finances publiques. Les oppositions, depuis ce matin, tirent déjà à boulet rouge. Le Rassemblement national parle, je cite, de résultats épouvantables et pitoyables et d'un gouvernement incompétent. La France insoumise dénonce de piètres économistes et les Républicains disent que la gestion calamiteuse des finances publiques doit être censurée en référence au projet de loi de finances rectificative que le gouvernement envisage pour cet été. Donc les comptes de l'INSEE, j'en finis là, les comptes de l'INSEE le 26 mars, ça va être le coup de feu, oui, d'une séquence de plus de deux mois, très compliquée à gérer pour le gouvernement sur les finances publiques. Et c'est pour ça que le président veut reprendre la main, en tout cas l'espère, à partir de ce soir.
Bon, pour reprendre la main, pour arriver dans le meilleur état possible aux Jeux Olympiques, évidemment. Là aussi, on regardera la France.
Oui, c'est vrai qu'il y a les JO aussi, évidemment, encore après les élections.
Vous parlez d'un semestre. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous ce soir sur BFM Business. Et alors parmi les chefs de parti qui seront sans doute à l'Elysée ce soir autour de la table, il y en a un dont on voulait vous parler ce soir, c'est Jordan Bardella, qui a pris la parole alors ce matin devant la CPME, comme le seront, cela dit, toutes les têtes de liste pour les élections européennes de juin prochain. Bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
Vous y étiez ce matin au siège de la CPME. Apparemment, il y a eu beaucoup de questions et des réponses, on va dire, pas toujours très précises de la part du leader du Rassemblement National.
Oui, et pas assez de concret. C'est l'avis général, même si évidemment il y a quelques points d'accord. Jordan Bardella, en tout cas, a essayé de convaincre avec deux propositions presque sur mesure pour la CPME. Écoutez-le d'abord sur la question des seuils, qui est très chère à l'organisation.
Nous entendons instaurer un délai de carence de 3 ans pour tout franchissement de seuil par une entreprise. 3 ans pour s'adapter, 3 ans pour empêcher la sanction d'éventuels à-coups économiques et permettre d'accompagner une tendance.
Voilà, problème, répond François Asselin, le patron de la CPME sur la scène. Ce délai existe déjà, il est même de 5 ans depuis la loi Pacte 1. Deuxième proposition de Jordan Bardella, cette fois à destination des PME qui ont des problèmes de recrutement, écoutez-le.
Nous proposons également de permettre, pour redynamiser l'attractivité de ces emplois, aux chefs d'entreprise qui le souhaitent, de procéder à une hausse de 10% des salaires sans cotisation patronale et sans charge sur ces 10% de hausse.
Marine Le Pen avait déjà formulé une proposition à peu près similaire dans son programme présidentiel, mais pour François Asselin, attention, ce remède pourrait alimenter une boucle prix-salaire. Écoutez-le.
Il y a une question de charge, mais l'entreprise ne peut pas distribuer ce qu'elle ne gagne pas. C'est-à-dire que si dès demain, j'augmente tous les salaires de mon entreprise de 10%, si j'ai la possibilité de basculer cela sur mon prix de vente et donc alimenter l'inflation, ben, je le ferai.
Voilà, au-delà de ces deux mesures, Jordan Bardella a déroulé son programme économique, un programme en 3 axes, produire en poursuivant par exemple la baisse des impôts de production engagés par Emmanuel Macron, protéger en donnant notamment la priorité nationale aux entreprises françaises dans les marchés publics, et puis permettre, il s'agit là de simplifier en supprimant plusieurs directives européennes.
Merci beaucoup Léo Dumas, donc les petits patrons qui auditionnent toutes les têtes de liste aux élections européennes avant le scrutin du 9 juin prochain, évidemment. Les petits patrons, justement, il y a un autre sujet qui les ronge alors quotidiennement, c'est celui des délais de paiement, vous savez, qui, avec la crise, sont repartis à la hausse. Vous savez que Bruxelles envisage de les réduire de 60 à 30 jours, sauf qu'en France, beaucoup d'experts le disent, en fait, c'est pas une si bonne idée que ça. Caroline Morisseau.
Le cabinet Altares a mesuré l'impact de la mesure et il alerte. Certaines entreprises ont certes gagné et récupéré du cash grâce à un paiement plus rapide. C'est le cas de 3 PME sur 5. Selon ses calculs, elles pourraient récupérer au total jusqu'à 14,5 milliards d'euros de liquidités. Mais d'autres entreprises vont au contraire y perdre. C'est le cas des grands groupes qui vont devoir payer plus rapidement leurs fournisseurs et donc aller chercher de nouvelles capacités de financement pour un montant total évalué à 12 milliards d'euros. Enfin, certains secteurs déjà fragilisés comme la restauration ou le commerce de détail risque d'être frappé de plein fouet par cette mesure. Quid d'un commerce de vêtements par exemple qui devra payer ses fournisseurs 2 fois plus rapidement sans pour autant réussir à vendre sa marchandise 2 fois plus vite. L'ensemble des organisations patronales dénonce depuis plusieurs mois une mesure brutale qui risque de déstabiliser les entreprises et de créer une distorsion de concurrence avec des fournisseurs extra-européens. Un message entendu à Bercy où l'on se bat contre cette mesure.
Caroline Morisseau, dans l'actualité, cette amende infligée par la France à Google, 250 millions d'euros d'amende dans le cadre du dossier des droits voisins, la rémunération des médias. L'autorité de la concurrence a jugé que Google n'avait pas respecté en fait certains des accords conclus sur le sujet il y a un peu plus de 2 ans. Et puis aux États-Unis, Joe Biden qui débloque 20 milliards de dollars pour aider Intel a augmenté sa production de semi-conducteurs dans l'Arizona, dans l'Ohio, dans l'Oregon, au Nouveau-Mexique. Joe Biden est d'ailleurs allé l'annoncer lui-même, cette bonne nouvelle, dans l'Arizona, qui sera l'un des états clés de l'élection de novembre prochain. 18h08, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Etienne, on vous retrouve à Euronext. Petite baisse à la Bourse de Paris. Faut dire qu'on attend la Fed, la réserve fédérale américaine, dans une heure environ, Etienne.
Oui, dans 52 minutes pour être précis, mon cher Guillaume, avec le communiqué de la Fed à 19h, conférence de presse de Jerome Powell à 19h30. Pas de baisse de taux attendue ce soir, mais c'est surtout Jerome Powell qui est attendu sur, bien sûr, les calendriers de baisse de taux, sachant que le marché anticipe en grande partie une baisse dès le mois de juin. La tendance à Paris a bien sûr été affectée par Kering, avec cette valeur qui perd 12%, qui a un impact de 0,2 sur la tendance. Moins 0,48% finalement ce soir à la clôture, sous les 8200 points à 8161 points. À noter, CAC 40, Orpea qui gagne un peu plus de 20%, puisque désormais il ne fera plus dire Orpea, le groupe va changer de nom. Donc le marché voit peut-être une nouvelle recovery sur cette valeur qui vaut toujours un centime avant un rassemblement des actions qui aura lieu dans les prochaines semaines. Et puis enfin, autre valeur qui se porte très bien ce soir à la Bourse de Paris, c'est Beneteau qui gagne 8%, avec le groupe qui a publié ses résultats et qui est confiant pour le marché du nautisme cette année, avec une demande qui est toujours là. Et avec la baisse des taux cette année, le groupe dit que ça devrait autant repartir en fin d'année, 13,78 € pour la valeur, le tout donc dans une tendance baissière ce soir pour le CAC 40, moins 0,48%, 8161 points.
Merci beaucoup Étienne, on regarde ce qui se passe à Wall Street, on attend la Fed évidemment avec grande impatience. Le Dow Jones qui est en légère baisse en ce moment, non légère hausse, pardon, plus 0,04%, c'est l'épaisseur du trait, puis l'indice Nasdaq lui aussi quasiment à l'arrêt. Oui, on attend la Fed, 16 170 points, tout ça à la mi-séance, 18h10 sur BFM Business. C'est l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt, aujourd'hui président de Territoire de Progrès, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il est président de Territoire et Progrès. Bonsoir, Olivier Dussopt.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Petit problème de micro, je vous prie de m'excuser. On va essayer de faire... Voilà, comme ça, ça arrive de temps en temps, c'est les joies du direct. Donc, je disais, Olivier Dussopt, pardonnez-moi, vous êtes ancien ministre du Travail, c'est comme ça qu'on vous a connu ici. Et puis, vous êtes désormais numéro 2 du parti présidentiel et président de Territoires et Progrès, qui se veut l'aile gauche de la majorité présidentielle. C'est un lot de consolation quand vous avez, vous n'êtes pas... Si vous êtes un politique, évidemment, puisque vous êtes élu de l'Ardèche. Mais c'est l'autre consolation de vous mettre au parti.
D'abord, vous avez raison de rappeler que je suis élu de l'Ardèche, puisque je suis député de l'Ardèche depuis 2007. Je suis dans mon quatrième mandat. J'ai eu la chance aussi d'être maire pendant 10 ans de ma commune, à Annonay. Et c'est ça le sens de mon engagement.
J'ai passé et ce n'était pas ma question. Hein. Ma question, c'était sur l'autre consolation.
Compris, mais je le rappelle, ouais. Et j'en profite de faire un clin d'œil aux Ardéchois. J'ai eu la chance d'être ministre pendant 6 ans, à la fonction publique, au budget, puis au travail. Et à l'occasion du dernier remaniement, je suis sorti du gouvernement et le président de la République m'a demandé, ainsi que le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, de m'impliquer plus fortement dans le parti. Et je le fais pour les mois qui viennent, jusqu'au congrès du mois de novembre.
D'accord, donc c'est une durée limitée. C'est un CDI, c'est un 3, non, CDD. C'est pour ça qu'on en parlera dans un instant.
Si je peux être utile pendant quelques mois, j'en suis très heureux.
À votre avis, vous avez été sacrifié sur l'autel de quoi, Olivier Dussopt ? On sait que vous avez un procès.
Je sais surtout que j'ai été relaxé, oui.
Vous avez été relaxé, justement. Donc, pourquoi on vous a sacrifié sur l'autel de quoi ?
Un remaniement, c'est toujours un moment compliqué. Ouais. Et les discussions que j'ai pu avoir sur ce sujet avec le président de la République, ce sont des discussions qui nous appartiennent.
Ouais.
Moi, ce que je retiens,
c'est... Non, mais quand même, vous pouvez nous donner une indication. Maintenant, il y a prescription.
Pendant 6 ans, j'ai porté des réformes importantes. La réforme des retraites, celle de l'assurance chômage, celle de France Travail. travail. C'est l'immigration, mais j'ai aussi fait la réforme de la fonction publique, les budgets. Mmh. J'ai toujours fait avec la confiance du président de la République. Ouais. Et
il vous a lâché là un peu?
Non, et j'ai toujours, je crois, je suis même sûr d'avoir sa confiance, ouais. comme enfin. Il a la mienne et mon soutien.
Alors justement, ce soir, vous nous direz si vous y allez ou pas, il y a une réunion à l'Élysée, parce qu'il y a un peu urgence, branle-bas combat, si vous voulez, sur la question des déficits publics, parce qu'on voit que les finances de la France sont en train de déraper. Le 26 mars, il y a donc l'INSEE qui va faire tomber le couperet pour dire où est-ce qu'on en est à question déficit, et on sera bien évidemment largement supérieur aux 4,9% qui sont prévus dans le budget de 2020, enfin qui était prévu dans le budget 2023. D'abord, vous y allez, Olivier Dussopt?
Non, c'est une réunion des principaux responsables de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment les présidents de groupe.
Oui.
Mais quelle est la situation?
Mais comme vous êtes numéro 2 du parti, vous aurez pu y aller.
Voilà. Quelle est la situation? Nous avons une situation des finances publiques qui pose un certain nombre d'interrogations, parce que la fin de l'année 2023 s'est caractérisée par des recettes fiscales en augmentation par rapport à 2022, mais en augmentation moins forte que ce qui était attendu, espéré. Mmh. Et nous avons pour l'année 2024, notamment du fait du contexte international, une croissance qui sera moins forte que celle qui était aussi espérée. Ouais. Ce double phénomène fait que vous avez une perte de recettes.
Je
savoir tout seul. Mmh. Et quand vous avez une perte de recettes, il faut aussi ajuster le niveau des dépenses. Et c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce qui me paraît nécessaire. Parce que la question des finances publiques, elle est importante. Tout à l'heure, vous rappeliez, et je le soulignais, que j'ai longtemps été élu et que je suis toujours élu en Ardèche. Lorsque j'étais maire de ma commune, une commune de 17 000 habitants, ça reste modeste évidemment, en 10 ans, j'ai divisé la dette de la ville par deux, parce que j'ai fait des économies sur le fonctionnement, parce que j'ai investi plus fortement.
Alors,
mais aussi parce que
le président aurait dû vous nommer à la tête de Bercy.
Non, toutes les choses ne se comparent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la question des finances publiques n'est pas une question secondaire ou anecdotique. Tenir les finances publiques, c'est ce qui permet aussi de garantir et de préparer l'avenir.
On peut se demander quand même si c'était pas devenu anecdotique, c'est évidemment beaucoup trop fort. Mais ça n'avait pas été relayé au second plan lorsqu'on voit l'état des finances publiques aujourd'hui. Vous avez donné des explications, certes. Enfin, quand même, il y a un dérapage.
Il y a une crise du Covid, il y a une crise de l'inflation,
oui,
il y a une crise énergétique.
C'est le cas pour tous les autres pays de l'Union européenne.
Et il y a aussi un niveau finalement de dépenses publiques en France qui est supérieure à la moyenne.
Et pourquoi rien n'a été fait depuis 7 ans?
Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. Je rappelle, parce que c'est important, que lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a pris un certain nombre de décisions avec les gouvernements qui l'accompagnaient, qui ont permis à la France pour la première fois de respecter son engagement de 3%. Et ensuite est survenue la crise du Covid qui a évidemment mis à mal les finances publiques. Et j'étais au budget à ce moment-là, j'ai pu le mesurer très concrètement. Mais le gouvernement et la majorité d'Emmanuel Macron est la seule majorité qui avait tenu ses objectifs et qui tiendra...
C'était, comme vous dites, c'était il y a très longtemps.
C'était en 2020, le Covid, c'est 2020, 2021, ça ne fait pas si longtemps que ça.
C'était les premières années
au-delà
du quinquennat.
Au-delà des éléments de conjoncture sur la question de l'inflation, sur la question de la guerre en Ukraine. Nous avons un pays qui se caractérise par un niveau de dépenses publiques supérieur à la moyenne.
Oui, et nous payons, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à réduire les dépenses publiques?
Parce que si j'arrive à aller au bout de la phrase, j'aurais peut-être amené une explication.
Oui.
Nous avons fait un choix, pas nous, pas cette majorité, pas ce gouvernement, les Français collectivement, et un choix depuis des décennies et des décennies, qui est un choix de socialiser un très grand nombre de dépenses. Il y a des pays dans lesquels l'impôt est moins élevé, les dépenses publiques sont moins élevées, parce qu'un certain nombre de fonctions, un certain nombre de services, qui chez nous sont des services publics ou quasiment publics, avec des niveaux de subventions aux associations importants, sont pris en charge par les usagers et non pas par le contribuable. Et donc ça explique aussi ce niveau de dépenses. Oui, moi ce que je crois, c'est que les mesures annoncées par Bruno Le Maire sont des mesures qui sont utiles, qui sont nécessaires.
Bien sûr, c'est du rabot, puis c'est toujours sur les mêmes.
Il faut tenir le cap. Et puis, il y a une deuxième priorité, mais qui est partagée par l'ensemble de la majorité, c'est que lorsque vous êtes dans une situation difficile en matière de finances publiques, il faut jouer sur les dépenses, il faut aussi jouer sur les recettes. Et jouer sur les recettes, c'est avoir de la croissance.
D'accord.
Et parce qu'avec la croissance, vous avez aussi de la croissance de recettes.
Pardonnez-moi, je vous interromps, mais parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc c'est pour ça. lorsque vous pensez qu'on va atteindre les 5,5, l'angle, ça va déraper jusqu'au 5,5.
La prévision de déficit pour 2023, oui, c'est 4,9%.
Oui, c'est ça. Non, mais
Bruno Le Maire a dit dans une interview récente
dimanche,
que la baisse des recettes fiscales en fin d'année, oui, allait très certainement amener le déficit à un niveau supérieur. Oui. C'est l'INSEE.
Ok, mais je vous demande si vous avez en tant qu'un budget, vous avez une estimation.
J'ai une idée, pas une estimation, mais c'est l'INSEE qui rend ses chiffres,
oui,
publics.
Le 26 mars.
Donc il faut respecter le travail de l'Institut statistique. Et je partage évidemment ce qu'a dit Bruno Le Maire lorsqu'il a dit que ça serait significativement supérieur.
Ouais. Lorsqu'il dit qu'il faut remplacer, c'était dans l'interview que vous m'enseignez à l'instant, il faut remplacer l'État-providence par l'État protecteur qui a la gratuité de tout pour tous tout le temps, c'est intenable. Il a raison de dire ça ?
La gratuité, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Mm. Et je partage son sentiment à ce sujet-là. Ouais. Quand un service est présenté comme gratuit, il y a forcément quelqu'un qui le paye. Si ça n'est pas l'usager, c'est le contribuable. Et donc, ça renvoie à ce que je disais il y a un instant. Le fait que, collectivement, nous avons fait un certain nombre de choix qui s'expliquent, qui s'entendent, qui ont très certainement des vertus en termes d'objectifs et qui nous amènent à un niveau de dépense publique très important. Veillons à ce que cette dépense soit maîtrisée et veillons à ce que nous ayons des recettes qui soient...
Il fallait peut-être veiller un tout petit peu
avant. Je
donne
un chiffre, pardonnez-moi, mais je donne un chiffre et je sais que vous y êtes
attentifs. On va passer sur l'assurance chômage, justement. Non, ouais.
Si nous avions le même niveau de production de richesse par habitant qu'un pays comme l'Allemagne ou le Danemark, nous aurions 200 milliards d'euros au moins de recettes supplémentaires et nous n'aurions plus de problème de déficit public. Mmh. Et jusqu'à preuve du contraire, ni l'Allemagne ni le Danemark ne sont des îlots de servitude ou des endroits où il fait mal vivre. Et donc, prenons exemple, améliorons notre productivité, soutenons l'investissement pour faire en sorte qu'il y ait de la croissance et des recettes.
Ben oui, mais il y a un gouvernement pour ça. Vous connaissez la phrase, d'après le Canard enchaîné, Emmanuel Macron, il aurait dit à propos du livre qui est publié, que je montre pour ceux qui nous regardent à la télévision, Bruno Le Maire, qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle La Voix française. C'est une proposition très intéressante. Il devrait en parler avec le ministre de l'Économie et des Finances. Bon, aujourd'hui, autre réunion très importante, c'est l'avant-dernière réunion sur le projet d'accord vie au travail seniors. Sur l'emploi des seniors. On voit bien qu'il y a différentes propositions sur la table, qu'a fait notamment les patronats. Et puis, il y a les syndicats qui ont dit, les CDI seniors, pour nous, c'est un casus belli, il en est hors de question. Pour vous, est-ce que vous considérez quand même que c'est peut-être ça qui peut faire avancer?
Moi, je pense que cet accord sur l'emploi des seniors, je l'ai initié lorsque j'étais ministre du Travail. Je pense que tous les outils qui permettent de faciliter le maintien dans l'emploi et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi âgés ou seniors sont de bons outils. Nous avons, et ça rejoint ce que je disais il y a un instant sur le niveau de production de richesse dans notre pays, nous avons un taux d'emploi des plus de 50 ans et des plus de 55 ans qui est beaucoup, beaucoup plus bas que la moyenne européenne.
Oui.
Et donc, il faut travailler sur la qualité de l'emploi, il faut travailler sur la formation et les reconversions, il faut travailler sur la gestion des carrières, et ça renvoie notamment à des idées, des outils comme le compte épargne-temps universel. Et puis, il y a une proposition portée par certaines organisations patronales qui avait été portée par le Sénat à l'occasion de la loi sur l'assurance chômage, qui consiste à dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que lorsqu'une entreprise recrute un demandeur d'emploi de plus de 55 ou de plus de 57 ans en CDI, il y ait un encouragement et une aide fiscale ou financière pour cela? Ça faisait partie des pistes.
Oui.
Les organisations syndicales et patronales en discutent. Et la dernière réunion de discussion, qui devrait être, nous l'espérons, conclusive, c'est la semaine prochaine. Il y a d'autres enjeux dans cet accord sur l'emploi des seniors. Il y a maintenant plusieurs semaines, lorsque début décembre, les mêmes partenaires sociaux se sont mis d'accord sur la convention UNEDIC et les règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Ils ont inscrit dans cette convention, dans le tableau financier, une économie qui en réalité concerne, enfin, en tout cas correspond au fait de décaler de 53 à 55 ans et de 55 à 57 ans. Les âges à partir desquels vous avez une durée d'indemnisation à l'assurance chômage qui est majorée.
Oui.
Cela représente une économie de plus de 400 millions d'euros sur 3 ans. Ils n'ont pas inscrit dans l'accord écrit, le décalage de ces bornes d'âge,
qu'on appelle
les bornes d'âge.
Absolument, tout à fait,
donc,
oui.
C'est ce qui nous avait amené, avec Elisabeth Borne, qui était alors Première Ministre, à ne pas agréer la Convention, mais à dire aux partenaires sociaux, je vais au bout parce que c'est important, à dire aux partenaires sociaux, si dans le cadre de l'accord sur l'emploi des seniors, vous décalez ces bornes d'âge de 53 à 55 et de 55 à 57, ça nous permettra d'agréer la convention.
Voilà, donc ça veut dire que, parce qu'en résumé, pour l'instant, les syndicats sont contre, toujours. Donc c'est pas dans l'accord. A priori, enfin, on va voir ce soir.
On verra dans les jours qui viennent.
Ça veut dire que donc l'État à votre avis, à ce moment-là, il ne va pas agréer l'accord.
On verra. Ne préjugeons pas de la fin d'une discussion.
Mais, ok, mais enfin, non, mais imaginons, il faut bien faire les scénarios, les législateurs.
Ma successeure, Catherine Vautrin, prendra les décisions et les bonnes décisions qui
s'imposent. Oui, mais qu'êtes-ce que vous pensez dans ces cas-là? Vous êtes un peu en dehors du jeu, donc vous pouvez nous répondre.
Il y a un fait que j'avais dit, tout simplement, et que nous avions dit il y a plusieurs mois. La convention de gestion de l'UNEDIC, elle ne peut être validée que si les économies qui sont inscrites, les mesures financières, sont appuyées sur des décisions, sur des dispositions écrites. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que l'équilibre financier qui apparaît dans le tableau n'est pas documenté, pour reprendre un terme technique et du ministère du budget. Ça rend les choses plus compliquées. Mais gageons que les partenaires sociaux y arrivent. Le sujet de l'emploi des seniors est une priorité absolue, à la fois parce que c'est important en matière de lutte contre le chômage, mais parce que, comme je disais, c'est important pour la production globale de richesse.
Mais il faut changer aussi les mentalités, et ça prend du temps, ça c'est clair. Justement, à propos sur l'assurance chômage, le fait de décaler les règles d'indemnisation des chômeurs seniors, est-ce que pour vous, est-ce que ça justifie la déclaration, là encore, de Bruno Le Maire, qui dit il faut c'est à l'État de gérer ça, il faut que l'État reprenne en main, je prends son expression, l'assurance chômage. D'autres disent, ben voilà, c'est l'étatisation de l'assurance chômage.
Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la question des règles d'indemnisation. Mm-hmm. Et donc, il y a des règles de durée, il y a des règles d'augmentation de la durée pour les seniors. Puis, il y a un deuxième, et c'est ce sur quoi les organisations syndicales et patronales ont travaillé avec cette suite qu'ils doivent avoir dans l'accord sur l'emploi des seniors s'il aboutit. Puis il y a un deuxième sujet qui est celui de la gouvernance, donc de la gestion globale de l'assurance chômage, de la place de l'État.
Oui, mais qui peuvent être liés, vous voyez bien le lien.
De la place des partenaires sociaux. Moi, je pense que ce débat sur la gouvernance, il est important. Et lorsque j'ai été nommé ministre du Travail en 2022, tous les partenaires sociaux disaient que c'était un débat important, celui de la gouvernance sur l'assurance chômage. Et beaucoup le disaient en assurant, et je partage cette affirmation, que progressivement, et la dernière étape importante, c'est 2018, lorsqu'on a supprimé les cotisations chômage sur les cotisations salariales en matière d'assurance chômage, progressivement, une partie des cotisations et des recettes de cotisations ont été remplacées par des recettes fiscales versées par l'État. Donc, dès lors que l'État a un poids par des recettes fiscales aussi importants, ça pose des questions sur le rôle et la place de l'État.
D'accord, mais enfin, pour vous voyez, aboutir, c'est quand même un peu la négation de tout le système paritaire.
Non, je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs scénarios. Je pense qu'une réforme de la gouvernance est utile, nécessaire. Ça ne peut pas se faire sans une négociation préalable des partenaires sociaux. Donc, toutes les propositions peuvent être faites. À titre personnel, je pense qu'un bon projet de gouvernance, une bonne réforme de la gouvernance, serait de dire que le Parlement, quand on dit l'État, ça n'est pas forcément le gouvernement, ça peut être le législateur, que le Parlement, à intervalles réguliers, tous les 3 ans, peut-être tous les 5 ans, fixe des orientations en matière de politique d'assurance chômage, et que dans le cadre de ces orientations, les partenaires sociaux assurent la gestion du régime, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. C'est une façon de donner à l'État et au Parlement une prérogative en matière de détermination des priorités.
C'est plus souple, c'est moins provocant.
Les partenaires sociaux assurent ce qu'on appelle parfois du paritarisme de gestion. Mais c'est une position personnelle. Et je le répète, ce débat sur la gouvernance, à mon sens, il est majeur. Mais c'est un débat qui, au titre du Code du Travail, de l'article L1 du Code du Travail, doit être un débat de partenaires sociaux avant que le Parlement prenne la main.
Puisqu'on est dans les objectifs un peu inatteignables, on parlait des déficits publics, est-ce que pour vous, l'objectif du plein emploi reste atteignable? Alors, donc en 2027, lorsqu'on voit la conjoncture de 2024.
De 2024 et de 2023. L'économie française a créé de l'emploi en 2023, au premier semestre. Et le nombre d'emplois créés au second semestre est en fait un solde nul. Il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de création. Et donc, évidemment, quand on voit cette conjoncture, on se dit que les choses sont plus difficiles. Ça reste atteignable. Ça reste atteignable et ça doit rester un objectif prioritaire. Parce que même si
ça reste atteignable à quel point,
Même si c'est un peu plus difficile parce que la conjoncture s'est dégradée, si vous baissez la garde sur ce sujet-là, vous êtes sûr de ne jamais atteindre vos objectifs. Et donc, il faut continuer à travailler pour de la création d'emplois et donc de l'activité. Il faut continuer à simplifier un maximum de règles pour faire en sorte que toutes les procédures d'embauche soient plus faciles et que les entreprises soient sécurisées. Il faut continuer à former les demandeurs d'emploi. Et il y a des chiffres qui montrent que ça marche. On a un outil, la France a un outil qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences, qui consiste à financer des formations pour les demandeurs d'emploi. Et bien, imaginez que lorsque un demandeur d'emploi senior, pour reprendre cet exemple, suit une formation dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, son taux de retour à l'emploi augmente de 17 points par rapport aux chômeurs du même âge qui n'a pas suivi de formation qualifiante. Donc ça montre
la formation
que ça
est importante, puis en même temps on rabote aussi un peu la formation parce qu'il faut bien faire des économies levier. Dis ça, toute dernière question, parce que juste l'enjeu des européennes, puisque vous allez être un peu mobilisé sur cette question des européennes, l'enjeu pour le parti présidentiel, c'est quoi? C'est de un peu d'évacuer le sentiment voilà, de c'est toujours un peu on vote contre le gouvernement.
C'est faire une campagne européenne. Ouais. Une campagne européenne avec un projet européen sur des questions de souveraineté, sur des questions de droit.
Mais les président français ne vont pas forcément voter pour ça.
A déjà dit combien nous voulions inscrire dans la charte européenne des droits fondamentaux la question de l'IVG que nous avons déjà inscrite dans la Constitution. C'est faire cette campagne sur un projet européen, mais faire une campagne sur un projet européen et sur ce que font les députés européens au Parlement européen, c'est aussi dire ce que ça signifie sur la scène politique internationale, la scène politique intérieure. Quand le Rassemblement national à Bruxelles n'est jamais capable de voter la moindre résolution contre Vladimir Poutine, ça dit beaucoup de leur politique étrangère si par malheur ils étaient au pouvoir. Et donc il faut à la fois démontrer ces impostures et en même temps faire une campagne sur un projet et sur nos priorités pour l'Europe.
Merci beaucoup. Merci. Olivier Dussopt, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci d'avoir été avec nous, donc ancien ministre du Travail, du Budget évidemment, et président de Territoire et Progrès numéro 2 du parti présidentiel. Merci beaucoup. Tout de suite, Guillaume Paul.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Emmanuel Le Chypre, vous nous avez rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon, votre invité, Olivier Dussopt, ancien ministre et président de Territoire et d'Avenir, nous
et
dit.
Progrès.
Et Progrès.
Oh, ça revient au même, vous
voyez. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil. Enfin, nous dit en tout cas que si la productivité française était au même niveau que la productivité en Allemagne et au Danemark, eh bien, on n'aurait aucun souci de déficit.
Oui, donner ce chiffre intéressant, peut-être que Manuel le connaît, moi je ne le connaissais pas, qui est de dire qu'on avait, à ce moment-là, on aurait 200 milliards de PIB en plus. Donc je trouve que c'est un chiffre assez impressionnant. Et on revient toujours à la même question, pourquoi on a un problème de productivité, c'est comment faire pour trouver la solution, on ne l'a pas encore trouvée. C'est une des solutions qui préconisait. Évidemment, il y en a d'autres. Très inquiet quand même sur le niveau de déficit qui va être atteint qui est atteint en 2023.
Sera-t-il invité au dîner ce soir organisé par Emmanuel Macron
Non, avec les il n'y est pas. Non, il n'y est pas, même s'il est du numéro 2 du parti.
Eh ben oui.
Mais c'est les chefs de parti à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont invités, les présidents de groupe.
Bon, en tout cas, comment est-ce que vous regardez cette série de rencontres-là? Donc, on le rappelle, Bruno Le Maire, Catherine Vautrin et Christophe Béchu qui sont dans le bureau depuis tout à l'heure d'Emmanuel Macron, dîner. Alors, ces rencontres n'étaient pas à l'agenda de l'Élysée, il y a encore quelques heures.
Combat,
qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Qu'est-ce qui se passe?
C'est peut-être un dîner pour que Bruno Le Maire présente son nouveau livre à ses collègues.
Son nouveau programme présidentiel,
je peux le remontrer, si vous voulez.
La voix française.
Et ce que je disais, Olivier Dussopt, je lui demandais s'il avait lu le Canard enchaîné. Dans le Canard enchaîné, il y a Emmanuel Macron qui dit c'est très intéressant tout ce que dit dans ce livre, etc. Il faudrait faire les propositions au ministre de l'économie et des finances, celui qui est depuis 7 ans.
Voilà.
Donc visiblement, Macron n'a pas apprécié le livre.
Qui est quand même son ministre de l'économie et des finances et ça on peut pas dire. Après on peut tous les reproches sur il est là depuis 7 ans, etc. Celui qui freine le plus les ardeurs de Bruno Le Maire, c'est quand même Emmanuel Macron. Hein. Donc ils sont quand même tous fort sympathiques, mais.
Enfin, d'accord, Emmanuel, mais quand Bruno Le Maire dit que la gratuité de tout pour tous tout le temps, c'est intenable. En effet, qui est aux manettes depuis 7 ans?
Non, mais ça, entièrement d'accord. Mais vous pouvez considérer que, encore une fois, c'est Bruno Le Maire. Sauf que Bruno Le Maire, il fait partie d'un gouvernement, il a un Premier ministre.
Que et ce un que président dit, qui dépense
que ce
beaucoup.
Que dit Bruno Le Maire sur la dépense publique, sur les finances publiques, sur la fiscalité, etc. Parce qu'il a quand même avalé un certain nombre de couleuvres, Bruno Le Maire.
C'est vrai.
Tout ce qu'il a dit sur il faut arrêter les aides qui saupoudrent, etc. Mais paf, qu'est-ce qu'on lui a fait faire? On lui a fait faire des aides qui saupoudrent. Donc, il n'est pas tout seul à être embarqué dans cette galère de la contradiction entre ce que lui, Bruno Le Maire, présente comme les urgences économiques et son bilan de ministre de l'économie. Et là, on peut pointer plein de contradictions.
Oui.
Je suis d'accord, mais qui ne sont pas complètement imputables à Bruno Le Maire.
Non, mais quand Bruno Le Maire, il y a 18 mois, nous promet une revue des dépenses publiques, ministère par ministère, que 18 mois après, on n'a toujours rien et qu'il nous repromet la même chose, on voit bien que ça n'avance pas.
Mais c'est bien pour ça que... Mais on l'a déjà dit ici. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que quand vous vous y prenez toujours de la même façon et que ça n'a pas marché dans le passé, il
n'y
a aucune raison que ça marche aujourd'hui. Et vous savez très bien que le seul objectif d'un ministre, c'est surtout de réussir à convaincre Bercy de ne pas baisser son portefeuille. En fait, l'indice d'effort qu'on vous demande sur votre enveloppe budgétaire quand vous êtes ministre est directement lié à votre impact politique, à votre code politique.
Oui.
Donc, plus vous obtenez de Bercy de concessions, plus ça veut dire que vous êtes politiquement fort. Et tous les ministres font ça depuis 50 ans. Il n'y en a aucun, nulle part, qui a la culture de l'économie, de la dépense publique. Donc, comment voulez-vous?
C'est même contraire, la manière dont sont fabriqués les budgets, comme tu viens de le dire, c'est vraiment contraire. Il y a un point important à mon avis, il y a peu de personnes qui le savent. Si le 26 mars, l'INSEE dit on est à 5,5, donc 0,5. Donc, de
pardon,
plus...
présentation des comptes de la nation 26 mars, prochaine grande échéance, comme disait Thomas Asportas.
Absolument. Voilà. Si on dépasse de plus de 0,5% ce qui était prévu, si la réalisation dépasse de 0,5% ce qui était prévu, à ce moment-là, il y a une loi organique qui dit que le Haut Conseil pour les finances publiques peut convoquer le gouvernement et demander ce qui peut arriver.
Alors, et risque de 49,3 et de censure.
Ce qui peut arriver, parce que le déficit pour 2023 devait être de 4,9% du PIB, on peut potentiellement être à 5,5.
5,4, 5,5.
Donc on fait plus
0,5%.
On fait plus des 0,5% dont vous parlez, quoi. Voilà, c'est
donc
ça.
Là où on rentre quand même dans l'entonnoir.
Et puis je vous rappelle que le coup près des agences de notation va tomber bientôt, 26 avril pour Moody's and Fitch, et puis après c'est Standard & Poor's le 31 mai.
On sent qu'Emmanuel Macron essaie de trouver déjà une espèce de synthèse au sein de la majorité, alors que ça canarde dans tous les sens du côté des oppositions. Tiens, écoutez Bruno Retailleau pour Les Républicains ce matin sur ce sujet.
On est la Grèce.
Qui dépense depuis 7 ans? Qui est à l'origine de plus de 800 milliards d'augmentation de la dette?
Il y a eu le Covid au milieu de ça.
Parlons-en. J'imagine que, comme moi, vous avez lu les rapports de la Cour des comptes. Que disent les rapports de la Cour des comptes? Et qu'il y a moins d'un tiers de cet endettement depuis 2017, qui est consacré vraiment aux crises, et notamment à la crise du Covid. Donc, en réalité, la devise de M. Macron, comme de beaucoup de politiques en France, c'est « je dépense, donc je suis ». Il n'a eu de cesse de ne pas faire de réforme, mais à chaque problème, il y avait des milliards d'euros.
Non mais ça c'est certain, c'est indéniable. On est sur le podium des trois pays les plus endettés de la zone euro, après la Grèce et l'Italie.
Il y a un moment où, enfin je veux dire, tout le monde est amnésique dans cette affaire.
Ah bah c'est certain.
C'est de bon ton.
Oui, non mais...
Emmanuel.
Ah non mais évidemment, mais là c'est quand même effarant de voir les uns comme les autres, encore une fois, donner des leçons en matière de bonne gestion des finances publiques, alors que tout le monde mérite des bonnes aides. C'est quand même incroyable.
Edwige.
Oui, non, mais il y en a même certains qui vont encore plus loin, qui disent ça y est, c'est la situation de la Grèce. C'est ce que disait Jordan Bardella. Marine Le Pen,
Ciotti aussi.
C'est Eric Ciotti dans une interview, donc les LR. Donc, enfin, en tous les cas, on devient vraiment le mauvais élève de l'Europe. Et je pense que si à cette réunion ce soir, qui n'était pas prévue, pour ça je parlais de branle-bas, c'est que le 26 mars, ils ont déjà peut-être des pistes du
côté d'INSEE. Ils ont forcément reçu un coup de fil.
Qui disent attention, ça va être très mauvais.
Vous avez ce que vous êtes, Thomas, je le fais très vite, une séquence qui s'ouvre le 26 mars avec la présentation des comptes de la Nation, puis les agences de notation qui vont.
Mais ça, c'est plus loin.
Oui, mais pas tellement.
Réunion ce soir. C'est moins d'une semaine.
Fin avril, Moody's et Fitch, et puis effectivement, le 30 mai ou 31 mai, juste avant les élections européennes.
Et puis la pression européenne, parce qu'on parle en effet du coup près des agences de notation, mais on a explosé les plafonds fixés par les traités européens. Je vous rappelle que déficit public des États membres est censé être à 3%.
Mais oui, mais trop longtemps
quand même. Non, mais d'accord. Mais la pression en effet des agences de notation et de nos partenaires européens, évidemment, fait que c'est le branle-bas de combat.
Vous dites quand même
une étude qui a été relayée par l'IREF, qui vient d'un think tank espagnol, qui est l'Institut Juan de Mariana, qui classe en fait les 27 pays européens en fonction de leur performance sur les 5 dernières années en matière de croissance, d'emploi, de fiscalité, de réduction des déficits publics, etc. C'est un think tank qui est plutôt d'obédience libérale. La France est quand même classée 21e sur 27.
On est en train de devenir vraiment le dernier de la classe de l'Union européenne.
Oui, il y a quand même beaucoup de voyants au rouge sur le tableau.
Donc vous dites, s'il y a branle-bas le combat ce soir, entretien, réunion qui n'était pas prévue, c'est qu'il y a eu un petit coup de bigot du côté des agences de notation. Quelque chose comme ça, c'est votre
Il y a forcément quelque chose, que pour qu'il y ait cette réunion-là, à moins que ça soit Emmanuel Macron, là, on est la pure politique politicienne, qui n'a pas du tout apprécié que son ministre des Finances, au lieu de s'occuper des dépenses publiques, publie ce livre, La Voix française,
c'est vrai que ça a dû un petit
qui
peu
est
un
début
tout le monde, là, quand même.
De programme présidentiel, quelque part, et que là, Emmanuel Macron, il n'a pas apprécié.
Le problème, c'est que Bruno Le Maire, il est pris dans un piège, en fait. C'est-à-dire que. Manifestement, il pensait que dans une éventuelle future candidature à la présidentielle, les Français garderaient le souvenir en fait du ministre qui les a protégés pendant la crise sanitaire avec le chômage partiel, etc. Et en fait, il est en train de devenir le ministre qui a dilapidé un peu.
Oui, mais pour ça, Emmanuel, donc, il aurait dû se présenter il y a 2 ans.
Oui, d'accord, mais je pense que en fait, il y a aussi cette volonté-là qui est de dire, j'aurais tiré la sonnette d'alarme avant, parce qu'en fait, faut pas, enfin, je veux dire,
il le dit dans son livre,
il va partir en claquant la porte.
Relisez ce qu'écrivait François Fillon il y a 10 ans ou 15 ans.
Oui, c'est pareil.
On n'est pas sur des registres extrêmement différents.
Non, mais il a une phrase qui m'a frappée. Il dit notre économie est désormais notre socle le plus solide. Puisqu'on est une société qui est un peu éparpillée, qui va dans tous les sens, etc. Donc l'économie est au cœur de notre modèle de société maintenant. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il écrit. Et ce qui n'est pas complètement faux, en tous les cas, c'est là-dessus qu'on peut se retrouver. Sauf que là, on ne peut plus se retrouver parce que ça dérape du côté de tous les indicateurs économiques.
Oui, enfin, ceci dit, c'est facile de dire ça quand on voit que la France a 10 points de plus que la moyenne européenne en termes de dépenses publiques. Où sont les solutions structurelles apportées par Bruno Le Maire? Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Non, mais la réforme de l'État, est-ce qu'on garde ou non le statut de la fonction publique? Tous ces sujets de fond-là ne sont pas adressés.
Mais bien sûr.
Alors, est-ce qu'ils vont l'être ce soir?
Mais cela dit, la solution, ce n'est pas la fraude fiscale. Parce que ça y est, on a récupéré 15 milliards de la fraude fiscale.
C'est un montant historique.
Donc, c'est un montant historique. Mais surtout, c'est que ça peut, ça peut abonder les comptes de l'État.
Bon, voilà, une petite souris pour savoir ce qui va se dire ce soir. On a des petites souris qui nous diront ça demain matin sur BFM Business et ce soir, évidemment. Autre sujet, alors grande question qui n'est pas nouvelle, faut-il punir plus sévèrement les entreprises qui ne tiennent pas les délais de paiement? C'est ce qu'a proposé ce matin, en tout cas, Olivia Grégoire, car les choses sont en train de déraper apparemment de ce côté-là.
Oui, puisque d'après le gouvernement, les trésoreries se tendent. Il y a 15 milliards d'euros qui se baladent grosso modo dans la nature. Ça entraîne, et ça peut entraîner encore beaucoup de défaillances, comme on peut l'imaginer. Olivia Grégoire propose donc de doubler le plafond de sanctions qui est de 2 millions d'euros. Alors, bonne ou mauvaise idée, Emmanuel?
Il n'y a que deux boîtes qu'on payait 2 millions d'euros, c'est Renault et Unilever, vous voyez, petit peu. Enfin,
quand on fait payer les grosses, ça dépend. En fait, si vous faites payer les grosses boîtes qui traitent mal un petit peu leurs fournisseurs et qui mettent des PME dans la difficulté, oui, pourquoi pas. Mais sinon, si vous voyez que...
Ça ne fait pas de mal à leur portefeuille. Ça fait mal qu'à leur image, mais pas leur portefeuille.
Oui, mais après, appliquez ça... Ouais. Le problème, c'est que si vous appliquez ça à tous les niveaux, entre PME, etc., la réalité, c'est que vous allez aboutir à quoi? Si vous doublez les amendes, vous allez aboutir à fragiliser encore plus tout un tas d'entreprises. Donc, vous avez une mesure qui est un peu pro-cyclique, qui va aggraver, finalement, les défaillances d'entreprises et les faillites. Alors, quand il s'agit de réclamer, effectivement, à quelques grosses entreprises des sous, bon, pourquoi pas. Après, si c'est pour fragiliser encore plus des entreprises, il faut comprendre que le crédit inter-entreprise, c'est quelque chose qui met beaucoup d'huile, finalement, dans les rouages de l'économie française. Les facilités de caisse que se font les entreprises entre elles.
Oui, c'est vrai, mais juste quand même, Emmanuel, l'étude, en tout cas, sur ce projet-là, montre que 3 PME sur 5 pourraient récupérer au total jusqu'à 14 milliards d'euros en termes de liquidité. Donc, c'est plutôt pas mal pour les petites et moyennes entreprises.
L'étude du cabinet Altares, qui est sortie ce matin.
Ça s'est en fait plutôt amélioré. Enfin, là, on voit qu'il y a un petit dérapage, mais par rapport à quelques années, ou alors c'était toutes les grandes entreprises qui ne payaient pas leurs fournisseurs. Il y a quand même eu, du côté d'Airbus, il y a des améliorations qui ont été faites. Je suis un peu étonnée du côté de Renault, parce qu'en plus, l'État est actionnaire. Je trouve que c'est un peu étrange. Ça veut dire peut-être que Renault avait des vraies difficultés financières. Ça peut être une indication.
Ouais. Bon, c'est plus le cas. Regarder, oui,
mais voilà, je ne sais pas. Résultats. Mais ça s'est quand même un peu amélioré. Bon, peut-être d'oublier les je ne sais pas si c'est ça qui peut jouer.
C'est pas une très bonne idée pour les finances publiques.
Le name and shame.
L'État étant quand même un des plus mauvais payeurs de ce pays.
Oui, exactement. Voilà. Mais
si vous appliquez.
Vous avez entendu ce matin Olivia Grégoire qui a dit tout le mal qu'elle pensait de ce que veut faire Bruxelles, qui, c'est aussi le sujet du jour, veut ramener les délais de paiement de 60 à 30 jours au niveau de l'Union européenne. Et en France, Olivia Grégoire, la première, dit c'est pas une bonne idée. Ça va favoriser les importations. Et puis l'étude du cabinet Altares dont vous parliez, justement, Audrey nous dit non, en fin de compte, c'est la fausse bonne idée par excellence, parce que qu'est-ce qui va se passer? Certains, en fonction des secteurs, vont s'en sortir et d'autres, inexorablement, vont mettre la clé sous la porte, finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là?
Oui, c'est ça. En fait, non, mais c'est vrai qu'il y a. certains secteurs qui vont être fragilisés, comme le commerce de détail ou la restauration, évidemment, parce qu'en fait, les business qui ont beaucoup de stocks ne vont pas vendre deux fois plus vite, mais en revanche, ils vont devoir payer leurs fournisseurs deux fois plus vite.
Et maintenant, les travaux publics, Emmanuel a raison, c'est d'abord l'État qui devrait payer plus vite, parce que souvent, les collectivités locales, l'État, ça, ils payent vraiment à très, très, très long terme.
Hein, donc, Grégoire l'a dit elle-même encore.
Oui, hein, bah, oui mais il faut le faire. Elle est au gouvernement. Bah,
le patronat, en tout cas, est vent debout, parce qu'ils disent, en effet, que c'est une mesure qui est beaucoup trop brutale.
Une entreprise sur quatre qui met la clé sous la porte tous les ans à cause des délais de paiement, des retards de paiement. Chiffre que nous rappelle Pierre Pellouzet, le médiateur du crédit, qui vient nous voir régulièrement sur BFM Business. Voilà, en tout cas, pour ce sujet. Alors, autre sujet dont il fallait dire un mot, bien sûr, c'est...
L'emploi des seniors. Ouais. Et oui, puisque nouvelle réunion cet après-midi entre les partenaires sociaux sur le sujet. Et donc, mine de rien, on se rapproche de l'échéance, puisque la dernière séance de négociation s'est prévue mardi prochain, le 26 mars. Et pour l'instant, rien de concret.
Alors, le patronat fait quand même des propositions. Il a remis avant-hier un projet dans lequel il propose toujours de créer, vous savez, ce qu'il appelle le CDI de fin de carrière, pour faciliter les embauches. Les syndicats font une dizaine de propositions concrètes. Ils reviennent sur le CETU notamment. Est-ce que vous le sentez déjà, le rendez-vous raté, là ? Il y a la prochaine réunion,
Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est que derrière, et du reste, c'est ce qu'a dit Olivier Dussopt, puisque c'est lui qui a initié ça, le travail sur les seniors, la vie au travail, comme on dit. Il y a la question du CDI senior, le fait d'indemniser ou pas, de réduire l'indemnisation des salariés seniors, peut-être finir par y arriver. Mais on voit que si ça n'arrive pas, eh bien, ça veut dire que l'État va sans doute reprendre la main, parce que il faut quand même qu'il y ait des comptes au niveau de l'UNEDIC qui soient au carré, et à ce moment-là, ça ne va plus rentrer dans les clous. Mmh. Et donc, l'État va reprendre la gouvernance. Et donc, ça, c'est un point très important, et c'est ce que nous a laissé entendre l'ancien ministre du Travail.
Emmanuel Lechypre, parce qu'il y a des discordances, en tout cas, au sein des représentants du patronat. Enfin, on voit bien qu'entre le MEDEF, la CPME et l'U2P, ils ont quand même du mal à se mettre d'accord, notamment sur le compte épargne temps universel. Rien n'avance sur le sujet. Ça patauge un peu.
Ça paraît tellement dérisoire par rapport à tous les autres enjeux.
C'est un vrai sujet, comme l'emploi des seniors.
Non, mais quand vous voyez tout ce qui est en train de se produire sur le monde du travail, l'emploi, etc.
On a un taux de chômage des seniors qui est quand même incroyablement élevé par rapport au...
Notamment sur les 65-64.
Repousser l'âge de la retraite, ça fait quand même en grande partie le boulot, quoi. Donc... je sais pas, moi je trouve que c'est des enjeux.
Enfin, il y a le travailler plus et il y a le travailler mieux. Il y a les sujets de reconversion, de formation.
Vraiment, c'est un sujet qui...
Non, mais il y a quand même
Sujet... parce que vous êtes trop jeune, Emmanuel, vous ne vous sentez pas concerné.
Non, mais si vous voulez, par rapport à toutes les problématiques que vous voyez, même sur la vie au travail, etc., je pense que c'est vraiment des débats d'un autre siècle. Quoi.
Là, pour le coup, on peut faire des économies. C'est pour ça que ça les intéresse tant. Sinon, c'est pas l'avenir des seniors. Okay. C'est puisqu'on peut faire des économies, et si on atteint le plein emploi, alors là, pour le coup, on n'a plus de problème de finances publiques.
Alors, voilà, c'est ça exactement. Voilà. Et on peut augmenter notre productivité aussi et là, avec des bonnes mesures.
C'est là où est l'enjeu.
Non, mais attendez, je crois que vous avez mal interprété les propos d'Olivier Dussopt. Hein, quand il dit productivité, c'est pas le sujet. La productivité, elle est même partout en Europe aujourd'hui.
C'est
faible. Non, elle n'est pas spécialement faible en France. Le sujet, c'est le taux d'emploi. Or, vous ne pouvez pas avoir un taux d'emploi qui monte et une productivité qui monte aussi, sauf dans des périodes où là, c'est vraiment des périodes fastes.
Donc, tout baisse.
Le vrai sujet, c'est le taux d'emploi. Si on avait un taux d'emploi identique, on aurait un million d'emplois en plus avec tout ce qui va avec, etc. Et ça résout.
Tout ce qui va en moins,
Oui. côté prestations et tout ce qui va en plus côté croissance, revenus, etc.
Le problème, c'est que vous avez des partenaires sociaux là, qui ont une semaine, grosso modo, pour trouver un accord, pour sauver le paritarisme et empêcher l'État de reprendre définitivement la main sur ces prestations. C'est un trésor de guerre à 300 milliards, les prestations sociales aujourd'hui en France. Hein, c'est entre l'UNEDIC et autres. Donc,
on risque de se mettre d'accord finalement sur un accord. Il y avait une proposition à Olivier Dussopt en disant plus que. En fait, ce qui serait mieux que l'État. Reprennent la gestion directe de l'assurance chômage et que ça soit le Parlement. Le Parlement qui reprenne ça, qui prenne les décisions et après qui fasse jouer le paritarisme au niveau des syndicats et du patronat.
Sauf qu'ils ont
tous moins agressif comme solution.
Ils ont tous l'impression de négocier avec un revolver sur la tempe, malgré tout, quoi. De toute façon, ça reste le grand problème.
Oui, surtout que le climat social s'était amélioré.
On en saura plus demain.
Oui. Et puis, alors, on voulait, parce qu'Emmanuel Le Chypre, à la demande express d'Emmanuel Le Chypre, on va dire un mot quand même de ce qui a été annoncé aujourd'hui sur les zones à faibles émissions, les ZFE. Puisqu'on a appris que, finalement, les restrictions de circulation pour les véhicules polluants ne concerneront que Paris et Lyon au 1er janvier prochain et les 40 autres métropoles pourront choisir, nous dit-on, d'autoriser la quasi-totalité des véhicules à circuler. On calme le jeu sur cette question.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est surtout que, en fait, il faut rappeler, il y a une loi qui disait qu'en gros, l'instauration de ces zones à faible émission, c'est-à-dire ces contraintes de circulation, étaient sujettes et dépendaient finalement de la qualité de l'air dans beaucoup de villes.
C'est ça.
Et qu'en fait, que tous les ans, cette qualité de l'air serait mesurée et que si ça s'améliorait, on n'aurait pas besoin de mettre en place ces mesures. Or, c'est vraiment ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on a des émissions, notamment sur les particules fines, qui sont quand même en baisse de 60% depuis 2000, ce qui est quand même considérable, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aviez 15 métropoles qui étaient concernées en 2016, vous n'en avez plus que 2 aujourd'hui qui sont concernées.
On explique comment ça, cette baisse drastique?
La baisse des émissions de particules fines, elle est d'abord liée à la rénovation du parc automobile, quand même, à la modernisation du parc automobile avec des voitures qui émettent moins.
À l'arrivée des voitures électriques.
Elle est liée aussi au fait que, notamment, bien sûr, elle est liée aussi au fait que, on a de moins en moins d'usines près des grandes villes, et puis surtout que dans les bâtiments, au sens large, hein, bureaux, logements, etc. On a quand même fait des économies, c'est-à-dire qu'on a on est plus économe en énergie et on consomme des énergies plus vertes.
Mais ça va dans le bon sens, tout ça.
Mais c'est bien pour ça que je voulais le souligner.
Donc c'était un coup de cœur.
Absolument. Je considère que c'est une très bonne nouvelle et que le contre-coup positif de ça en matière de climat social, c'est qu'on voyait bien que c'était quelque chose d'explosif, en fait, au niveau. Cette idée que potentiellement il y avait tout un tas de gens qui n'auraient plus accès au centre-ville.
Oui, c'était une bombe sociale. Hein.
C'était une bombe politique et sociale. Ouais. Donc, bonne nouvelle pour le climat, bonne nouvelle pour le climat social. Youpla boum.
Et voilà, bonne nouvelle pour ce débat qui termine sur une note positive.
Pour Paris et Lyon, quand même.
Oui.
Bah oui.
Ce sont les seuls qui n'y couperont pas. Ça fait quand même du monde, cela dit, effectivement.
Oui, c'est pour ça qu'on
a un vrai problème sur la qualité de l'air à Paris.
Ça fait
quand
juste 1,5 million de véhicules.
Absolument, une paille. Voilà, c'est terminé pour ce soir, pour cette première partie des experts, 18h56. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, avec nous ce soir, Edwige. On se retrouve demain, 18h10. Évidemment.
Avec le patron de la Caisse des dépôts.
Ah oui.
Aussi patron de la Poste, hein, puisqu'il contrôle de la Poste, CNP Écureuil, BPI France, dont je lui poserai. Une question de notre feuilleton favori, Atos.
Ah,
est-ce que évidemment. La Caisse des dépôts va s'occuper d'Atos?
Il n'y comprend pas.
La Caisse des dépôts qui est publiée.
Il va passer sur le grill de la grande interview.
Ça sera demain 18h10. Merci beaucoup, 18h56. Nous, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
Voilà, avec un casting d'enfer, comme tous les soirs. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.